Alors ce matin, je vais vous lire un passage. Et de ce passage qui est court, déjà, je vais retirer un verset seulement. Mais c'est important de lire le passage entier. Il s'agit de Éphésiens au chapitre 6, les versets 10 à 19. Et je retiendrai le verset 18. Donc Éphésiens 6, versets 10 à 19. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi, que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. Donc de ce texte, je vais retenir le verset 18 que je vous relis. Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Dans ce passage, nous voyons que Paul parle de la prière comme une des armes que Dieu donne aux croyants pour pouvoir résister et tenir ferme dans les combats spirituels que les croyants rencontrent au cours de leur vie. Donc, il est important d'utiliser son arme avec son efficacité maximum. L'efficacité que Dieu a voulu pour remporter la victoire. Et ce matin, j'aimerais que nous nous laissions enseigner par l'Écriture pour développer notre vie de prière. Les évangiles nous rapportent que Jésus priait souvent et que même il passait la nuit en prière parfois. On voit ça dans Luc chapitre 6, verset 12. La prière était pour lui la force conductrice de sa vie et le secret de la puissance de son ministère. C'est la même chose pour les apôtres. Acte 1, 14 nous dit « Tous, d'un commun accord, étaient assidus à la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. » Qu'en est-il de l'apôtre Paul? Le Nouveau Testament ne nous montre pas souvent Paul en prière. À l'exception du jour où il a été jeté en prison avec Silas pour avoir délivré une servante d'un esprit de Python. On voit ça dans Actes 16, 25. Mais on ne peut pas imaginer que celui qui a exhorté les croyants à prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17, ne mette pas en pratique ses propres exhortations. Dans chaque génération, tous les grands serviteurs de Dieu ont accordé beaucoup d'importance à la prière. Martin Luther disait « Si je ne réussis pas à passer 2 heures dans la prière chaque matin, le diable aura la victoire dans la journée. » John Wesley priait 2 heures par jour et avait l'habitude de dire « Dieu ne fait rien d'autre que de répondre à la prière. » On peut citer également Yonggi Cho, ce pasteur sud-coréen, qui a commencé à prier tout seul sous une tente, planté dans une banlieue de Séoul, et qui est maintenant pasteur d'une église de beaucoup plus de 700 000 membres. 700 000 ! Lorsqu'on lui demande le secret de cette croissance, que dit-il ? Il répond : « Je prie, j'écoute Dieu et je fais ce qu'il me dit. » Avec ces exemples, il est difficile de ne pas se rendre compte du déficit important qu'il y a dans notre propre vie de prière. Absorbés par nos activités, nous trouvons difficilement du temps pour la prière. Nous le réduisons parfois à la portion congrue. Et lorsque nous prions, nous avons souvent l'impression que nos prières sont inefficaces. Nous expérimentons que notre esprit s'égare souvent et nous manquons de persévérance. Comment pouvons-nous développer notre vie de prière afin d'en faire une arme efficace, une arme spirituelle, bien sûr? Et je voudrais ce matin indiquer quelques points essentiels. Le premier point que je voudrais aborder, c'est être discipliné. N'importe qui sait qu'il doit avoir une discipline pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Que ce soit pour passer un examen, acquérir un métier, discipline dans le domaine du sport, dans le domaine des arts, de la musique, de l'écriture, de la danse, dans la tenue de sa maison aussi, dans l'éducation de ses enfants, etc., etc. Tout est une question de discipline, et j'ajoute, de discipline librement consentie. Sans discipline, tout va à volo. Eh bien, frères et sœurs, il en est de même pour la prière. Avoir une discipline dans la prière, c'est décider de mettre à part un moment de la journée qui sera consacré uniquement à la prière. J'insiste sur le « uniquement ». En effet, j'ai souvent entendu dire « je prie en faisant la vaisselle » ou « en faisant le ménage » ou « en conduisant ». Frères et sœurs, c'est cet en plus d'avoir consacré une demi-heure ou une heure en tête à tête avec le Seigneur, je n'ai rien à redire. Mais si c'est une façon habituelle de prier, je crois que dans ce cas, le sens de la prière n'a pas été compris. Est-ce qu'on imaginerait quelqu'un allant voir son meilleur ami pour lui ouvrir son cœur et pour lui parler de choses importantes, alors que ce dernier continue à faire la vaisselle ou de passer l'aspirateur? La prière, c'est comme un rendez-vous que Dieu nous fixe, un moment privilégié où il veut nous parler cœur à cœur et écouter ce que notre cœur a à lui dire. Et cela demande toute notre attention. Et donc, cela s'accommode mal du cliquetis des assiettes et des couverts, du bruit de l'aspirateur ou de l'attention que l'on doit avoir en conduisant pour éviter un accident. La discipline librement consentie nous permettra petit à petit de nous réjouir de ce temps mis à part dans notre journée. Ne dit-on pas que l'appétit vient en mangeant ? Cette discipline nous permettra aussi de ne plus tomber dans la tentation de prier plus tard, ou quand j'en aurai le temps, ou quand j'en aurai envie. Nous savons tous que remettre à plus tard, c'est souvent remettre à jamais. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui disent plusieurs fois par semaine « je déjeunerai quand j'aurai le temps » et qui remettent son déjeuner au surlendemain. De même que nous ne remettons pas notre déjeuner au calende grec, car s'alimenter régulièrement est vital pour notre santé physique. De même, ne remettons pas à plus tard notre rendez-vous de prière avec le Seigneur, car c'est vital pour notre santé spirituelle. Le second point, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est la première volonté à avoir lorsqu'on entre dans la prière. Pourquoi ? Pour que notre cœur puisse s'ouvrir à Dieu. S'il est ouvert, notre cœur, Dieu pourra nous parler. S'il n'est pas ouvert, nous n'entendrons rien. C'est dans cette volonté d'ouverture à Dieu que l'Esprit Saint nous révélera si un obstacle s'interpose entre lui et nous, nous empêchant d'entrer en communication avec lui. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous ramener toujours vers Dieu. S'il nous montre une situation, un péché, une habitude, un comportement qui attriste Dieu, demandons pardon, déposons-les à la croix et laissons-les au pied de la croix. Dieu est fidèle et juste, dit 1 Jean 1,9. Il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de toute injustice. La communion totale peut être alors restauré immédiatement. Entrer dans la présence de Dieu, c'est lui demander d'être transparent devant lui. C'est ne pas craindre un regard accusateur de sa part. Lorsque nous avons conscience que notre vie n'est pas en ordre, entrer dans la présence de Dieu, c'est apprendre à tout lui dire, je dis bien tout, nos craintes, nos doutes, les péchés qui nous rendent prisonniers et dont nous avons honte, les souffrances morales, les aigreurs, les non-pardons, les colères dont nous ne pouvons pas nous débarrasser, les rivalités, toutes ces choses qui rongent notre cœur. Dieu ne nous donne pas un rendez-vous pour nous juger ou nous humilier, mais pour nous pardonner, pour nous guérir, pour nous donner ou nous redonner du courage. Le temps de la prière n'est pas un conseil de discipline où l'on vient en tremblant, redoutant la sanction qui va tomber. Le temps de la prière, c'est un moment où un Père parfait veut entendre son enfant lui ouvrir son cœur, sans rien lui cacher, sans essayer de lui cacher quoi que ce soit, par crainte ou par honte. Si Dieu nous demande une transparence totale, c'est pour éliminer tous les obstacles entre lui et nous. Si Dieu nous demande une transparence totale, c'est pour éliminer tous les obstacles entre Dieu et nous. Obstacles qui nous empêchent d'entrer dans la repentance et donc d'être pardonné ou guéri ou remis debout. C'est parce qu'il nous aime et veut nous guérir que Dieu nous demande d'être transparent Et ce n'est pas facile. C'est un apprentissage. Mais c'est possible. Bien sûr, entrer dans la présence de Dieu, c'est aussi laisser notre cœur exploser de joie devant son amour, sa tendresse, les grâces qu'il nous accorde, l'émerveillement que nous avons devant la beauté de sa création. Notre Dieu n'est pas un Dieu lointain. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Il s'intéresse à notre vie dans ses moindres détails, comme l'exprime le psalmiste, psaume 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. C'est ça notre Dieu. Alors, ouvrons-lui largement notre cœur. Un troisième point essentiel, c'est être à l'écoute de Dieu. Dans Jean 10, 45, Jésus dit que les brebis suivent leur berger. Pourquoi ? Parce qu'elles connaissent sa voix. Et il ajoute, elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Il est donc important de connaître la voix de Dieu pour ne pas suivre n'importe qui. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, il est important que notre cœur soit apaisé afin de pouvoir écouter la voix de Dieu. Dieu parle rarement à haute et intelligible voix. Ça arrive, mais c'est rare. Mais il parle plus souvent par des pensées, des images, des songes, des mots, des passages de l'Écriture qui s'imposent à notre esprit. En passant du temps dans la prière avec le Seigneur, en passant du temps, nous mettons toutes les chances de notre côté pour qu'il ait le temps de nous parler. Comment pourrions-nous entendre le Seigneur si, pendant que nous prions, notre esprit est préoccupé par les rendez-vous qui vont suivre ? Ou bien si nous avons le souci de l'heure ? Ou bien des diverses tâches qui nous attendent dans la journée ? Alors, choisissons donc bien le moment de la journée où nous ne serons pas dérangés, ainsi que le lieu où nous nous sentons le mieux dans la présence de Dieu. C'est très important. Ce n'est pas un détail. Apprenons sérieusement à nous consacrer exclusivement à un cœur à cœur avec Dieu lorsque nous prions. Et osons lui demander ce que Samuel a demandé. Parle, Seigneur. Parle. Ton serviteur écoute. 1 Samuel 3:10. Le quatrième point, c'est s'attendre à une réponse de Dieu. Si nous avions conscience que Dieu est à notre côté lorsque nous prions, nous ne passerions pas d'un sujet à l'autre aussi facilement que nous le faisons en général. Nous lui ferions une demande précise et nous attendrions qu'il nous réponde d'une façon ou d'une autre. N'oublions pas que la prière ne se résume pas à parler à Dieu, mais surtout à écouter. La prière, c'est un dialogue. N'en faisons pas un monologue. Avez-vous observé comment fait un enfant lorsqu'il demande quelque chose à son père ou à sa mère? Il attend une réponse. Et la crise de nerfs n'est pas loin si les parents ne répondent pas. Je vois des sourires. Je sais que je suis dans le vrai. Frères et sœurs, je me demande parfois si Dieu n'aimerait pas que nous prenions nous aussi une crise de nerfs lorsque nous n'entendrons pas sa réponse. Il y verrait au moins une preuve que nous voulons vraiment ce que nous lui demandons. Une preuve que nous nous attendons à lui. Mais soyons attentifs à ce que nous demandons. L'épître de Jacques, chapitre 4, verset 3, nous met en garde. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, afin de tout dépenser pour vos passions. Frères et sœurs, je crois vraiment qu'aujourd'hui encore, Dieu voudrait parler à chaque croyant, comme il parlait à Moïse. Exode 33:11 nous dit « Le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. » Le cinquième et dernier point, c'est persévérer. Dans la parabole du juge inique, Luc chapitre 18, versets 1 à 8, Jésus insiste sur le fait qu'il faut toujours prier sans se lasser. Cette parabole nous enseigne que nous ne devons pas cesser de prier lorsque la réponse de Dieu se fait attendre. C'est un combat auquel tous les croyants sont confrontés. Car l'attente prolongée est souvent démobilisatrice et fait naître le doute. Pour remporter ce combat, il faut avoir foi en ce que Jésus dit dans cette parabole. Qu'est-ce qu'il dit Jésus ? Dieu ne ferait-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ? Et tarderait-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Frères et sœurs, Dieu honore toujours la persévérance. Si vous y pensez, lisez le chapitre 10 de Daniel et méditez le verset 12. Après avoir prié et jeûné pendant 3 semaines, Daniel est exaucé. Le texte dit, l'ange me dit, Daniel, n'aie pas peur. Dès le premier jour où tu as décidé, de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Dans toute l'histoire de l'Église, sans exception, le réveil a toujours été le fruit d'une vie de prière intense. Notre Église ne pourra pas faire l'impasse de la prière si nous voulons qu'elle connaisse un réveil. Ce matin, je veux vous encourager à développer votre vie de prière. C'est à la portée de tous les croyants qui cherchent à être sensibles au Saint-Esprit et qui veulent être attentifs aux 5 points que je viens de commenter. Être discipliné, entrer dans la présence de Dieu, être à l'écoute de Dieu, s'attendre à une réponse de Dieu et persévérer. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, élimine tout ce qu'il y a d'humain dans ce qui vient d'être dit et ne laisse que ce qui vient de toi. Touche notre cœur, Seigneur. Touche notre volonté. De façon à ce que nous ne prenions pas à la légère ce commandement, cette exhortation de l'apôtre Paul, qui ne vient pas de l'apôtre Paul seul, qui vient de toi, Seigneur. Touche notre cœur, Seigneur, pour que nous soyons des hommes et des femmes qui sachions prendre en main cette arme spirituelle que Dieu nous a donnée pour remporter la victoire. C'est ce que nous te demandons.